L'heure de faire un nouveau point sur l'actualité avec vous, Laurence Gontier.
La France qui a déjà déployé une première équipe de militaires au Groenland dans le cadre d'une mission européenne va y dépêcher dans les prochains jours de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes, annonce d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. Le chef de l'État a insisté sur l'importance d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. C'est le rôle de la France. Emmanuel Macron qui a assuré que notre pays devait consentir à des efforts à la mesure de notre rude époque et estimé nécessaire un budget supplémentaire de 36 milliards d'euros pour les armées d'ici à 2030 via une actualisation de la loi de programmation militaire. Le Soudan va s'enfoncer un peu plus dans la famine. L'aide alimentaire à ce pays prendra fin en mars, faute de fonds supplémentaires, alerte l'ONU, car les stocks pourraient être épuisés d'ici là. Yannick Agnel sera bien jugé pour viol sur mineur. Son recours a été rejeté. L'ancien champion olympique de natation sera jugé devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Le sportif de 33 ans est poursuivi pour avoir eu une relation en 2016 avec la fille de son entraîneur, qui était alors âgé de 13 ans. Il a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse. L'examen en nouvelle lecture du budget se poursuit à l'Assemblée et les députés viennent de rejeter tout rétablissement de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises supprimées au Sénat. C'est un des points clés d'un éventuel compromis entre le gouvernement et le Parti socialiste. Nouvelle baisse du taux du livret A au 1er février, ce sera la troisième en à peine un an. Il va passer à 1,5% contre 1,7% aujourd'hui, mais va rester bien au-dessus de l'inflation. À la Bourse de Paris, le CAC 40 recule légèrement, moins 0,19% à 8314 points. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. C'est une histoire que connaissent les amoureux de la chronique, de la petite chronique révolutionnaire. Vous allez voir, c'est une histoire qui ne manque pas de sel et qui ne manque pas non plus d'une certaine dimension tragique. C'est l'histoire du faux évêque d'Agra.
Peugeot. Impossible de résister au leader de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 euros par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
h 14h30. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes une semaine avant l'exécution de Louis XVI, le 14 janvier 1793, et nous sommes à Poitiers. Aux environs de 5 heures, la diligence de Paris va déposer sur la place nationale, c'est comme ça qu'on a rebaptisé la place d'armes de Poitiers, ses occupants qui souhaitent séjourner dans la cité pictave. Parmi eux, un jeune homme d'assez belle allure, il porte l'uniforme de la garde nationale de Paris, ce qui à l'époque est une façon d'être bien accueilli partout. Gabriel Guillot de Folleville, c'est en tout cas le nom qu'il donne, n'arrive pas les mains vides puisqu'il a avec lui de grosses malles qui sont remplies de toutes sortes de documents, des livres, des papiers. Il a l'air plutôt pas mal ce Guillot, sauf que dans la réalité, il est sans un sou. Alors il va désespérément chercher un logis, ce qui, dans sa situation, n'est pas si simple, puisqu'encore une fois, il n'a pas de quoi payer. Mais Guillot est un homme assez malin, il va savoir se faire recommander, il se rend à l'ancien collège royal de Sainte-Marthe, qui maintenant est devenu le siège de la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Ben oui, je vous ai dit, on est en janvier 93. Alors, on va accorder une pension à ce citoyen Guillot de Folleville, qui se mêle tout à fait bien à la nouvelle société révolutionnaire, parce que Guillot ne s'en cache pas, il partage pleinement les idées de la Révolution, et même, il déclare avoir été membre des Jacobins lorsqu'il se trouvait à Paris. D'ailleurs, regardez, il a même sa carte de membre. Faut dire que Guillot se présente comme un fervent patriote. Au regard des révolutionnaires, cet homme est tout à fait présentable. Il a 29 ans, hein, c'est un jeune homme. Il assiste durant ses journées à toutes les conférences qui sont données par la société. Guillot étonne d'ailleurs par sa bonne tenue, par l'étendue de ses connaissances, par l'éloquence dont il sait faire preuve. Seulement, durant ses soirées, il lui arrive de se montrer plus discret. La vérité, c'est qu'on ne le retrouve pas facilement. Il n'est pas souvent dans sa chambre, car le soir, Guillot s'adonne à une toute autre activité, et celle-là, elle surprendrait bien ses amis patriotes. Faut vous dire qu'à la nuit tombée, il s'en va fréquenter une communauté de sœurs et de prêtres réfractaires. Et au sein de cette société, alors là, celle-là, tout à fait opposé aux idées révolutionnaires, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, il va se faire une place importante, puisque, avec une espèce d'assurance qui maintenant ne vous étonnera pas, il se fait passer pour un évêque qui aurait été envoyé spécialement par le pape. Dans « Le faux évêque de la Vendée » aux éditions Perrin, voici ce qu'écrit Jean-Marie Augustin. « Guillot raconte sous le sceau du secret qu'il est évêque et vicaire apostolique. » Sa sainteté, le pape, l'aurait nommé évêque in partibus infidelium, c'est-à-dire qu'il serait, suivant l'expression consacrée, titulaire d'un siège épiscopal situé dans le pays des infidèles. La pratique de l'Église d'instituer de tels prélats repose sur la volonté de conserver la mémoire de certains sièges autrefois très florissants, dont les territoires sont passés à la religion musulmane, et de tenir à disposition du souverain pontife des évêques qui l'assistent dans le ministère apostolique. Vous voyez que là, l'Église s'est en quelque sorte adaptée à une autre conformation, à une autre situation politique, celle d'une déchristianisation liée bien sûr à cette révolution française. Et aux catholiques qui cachent leurs activités, Guillot dit qu'il est donc évêque d'Agra, qui serait une ville, Agra c'est une ville de l'Inde, vous savez, du centre nord de l'Inde. Et le jour, Guillot est donc un ardent républicain, la nuit, il est un évêque.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà que quelque chose va venir bouleverser le quotidien et les aventures, les habitudes de notre imposteur. Au début de cette année 93, c'est le soulèvement de l'Ouest, bien entendu. Vous savez, tout ce qui va se passer avec la levée en masse, déjà l'annonce de l'exécution de Louis XVI, et puis, c'est vrai, ce refus de la constitution civile du clergé, de la nécessité pour les prêtres de prêter serment, etc. Bref, la Vendée est en ébullition, le Maine-et-Loire, la Loire inférieure, partout le peuple se soulève contre Paris et cette révolution, et la toute jeune République va réagir en procédant, vous le savez, à des levées en masse. C'est également la première fois que, à Poitiers, on va voir fonctionner la guillotine. Ça y est, on se met à suspecter son voisin de viser contre-révolutionnaire, de mener antipatriotique. On se demande si celui-ci ou celle-là ne serait pas un peu trop proche des catholiques contre-révolutionnaires. Et Jean-Marie Augustin écrit « Même s'il camoufle soigneusement ses activités clandestines, Guillot de Folleville ne se sent plus du tout en sécurité parce qu'il se présente comme un évêque auprès des fidèles du culte interdit. Il risque lui aussi d'être traité en hors-la-loi, condamné à mort, guillotiné. S'il est jeté en prison, il peut craindre d'être abattu par la fureur populaire. » On a le souvenir à l'époque des grands massacres de septembre 92. La seule solution pour Guillot, c'est de fuir. Seulement, il lui faudrait un passeport, parce qu'à l'époque, pour changer de département, c'est nécessaire. Et demander un tel titre, ça suppose que le comité de salut public local fasse une petite enquête, ce qui risquerait d'exposer un peu trop sa double vie. De plus, les prêtres réfractaires qu'il côtoyait jusqu'ici se font arrêter. Et on se demande si, un peu malmené, pourquoi pas torturé, certains ne finiraient pas par parler, par le dénoncer. Bref, la seule solution pour quitter Poitiers, c'est d'aller s'engager dans l'armée qui s'en va combattre les Vendéens. Et c'est ainsi que, le 25 avril 93, notre homme rejoint les volontaires qui se rassemblent place nationale. Guillot, alors là, il est plus patriote que jamais, hein, bien entendu. Quelques jours plus tard, le voilà sur les routes qui le rapprochent du feu, qui le rapprochent du front. Mais plus la troupe s'approche des combats, et plus lui a la trouille, si vous me passez l'expression. Et le jour où ça chauffe vraiment, alors que sa compagnie est en train de se mettre en place, il déclare qu'il se sent mal. Non, non, il va pas bien. Il a repéré une maison à l'abandon, pas très loin là, de la zone des combats. C'est la planque idéale. C'est là qu'il va attendre le résultat des opérations. Et toute la journée, il entend que ça canne, que ça canarde partout. Ce sont des heures interminables, hein, bien entendu. Il est là, dans sa cahute, complètement impuissant, à tourner en rond. Les heures passent, et c'est le scénario qu'il craignait qui va s'avérer. Les troupes vendéennes gagnent la bataille. Les Bleus fuient le champ de bataille. Et voilà que le citoyen Guyot se retrouve maintenant encerclé par l'armée catholique et royale. L'ouverture de l'Odoïska de Cherubini, l'orchestre de la Scala, était sous la direction de Riccardo Muti.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Eh oui, les troupes vendéennes se rapprochent du citoyen Guyot qui, voyant ce qui se passe, se défait complètement de sa tenue patriotique. Il enfile une espèce de redingote qu'il a trouvée dans la maison où il se cachait. Il se coiffe d'un bonnet de nuit et il se dit que, avec un peu de chance, on le prendra pour un pauvre curieux qui s'est retrouvé là par hasard. Une espèce de, en quelque sorte, un badaud. L'armée royale s'approche, les soldats vendéens entrent dans la maison, et il n'emmène pas large, là, Guyot. Et lorsqu'il rencontre les premiers soldats, bien, il raconte qu'il s'est retrouvé comme ça dans la bataille. Il n'a rien fait pour, il n'avait que cette maison pour se protéger et attendre la fin des hostilités. Autant le dire tout de suite, les Vendéens sont pas vraiment convaincus par ses propos. Et, à toutes fins utiles, on décide de l'enfermer. Il a quand même l'air d'un déserteur, hein, cet homme-là. Je cite Jean-Marie Augustin. Comme il s'attend à être fusillé au cours de la nuit ou le lendemain, Guyot fait une dernière tentative. Il s'approche des gardes vendéens et leur montre un sacré cœur cousu à la doublure de sa redingote. Il leur déclare aussi qu'il est évêque, mais personne ne s'intéresse à lui ni à son évêché imaginaire. Avec son bonnet de nuit et son étrange vêtement, les Blancs le prennent plutôt pour un fou et n'y prêtent même pas attention. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce prisonnier? Bon, on décide de l'emmener devant les chefs là de l'armée royale et catholique. Ils décideront bien de son sort. Alors le voilà qui arrive devant l'état-major. citoyen Guillot est devenu l'évêque Guillot. Parce que il a quand même, de toute façon, il n'a pas tellement le choix. C'est un caméléon, vous l'avez bien compris. Il va dire à chacun ce qu'il veut entendre. Alors là, il se lance. J'allais dire, il se jette. Ah, je ne suis pas n'importe qui, dit-il. Je suis ici selon la volonté de sa sainteté, le pape Pie VI. Je suis l'évêque in partibus infidelium d'Agra. Je suis ici en mission. Et il leur raconte son histoire. Il explique qu'il a été désigné par Rome pour venir soutenir les contre-révolutionnaires vendéens, qu'il est arrivé à Paris, à Poitiers, sous une fausse identité, et que, contre son gré, on l'a enrôlé dans la troupe républicaine. Et pour donner un peu de poids à ce qu'il essaie d'accréditer, Guillot ajoute « Allez voir les sœurs de Saint-Laurent à Poitiers, demandez-leur qui je suis !» Alors effectivement, on envoie quelqu'un à Poitiers. Et les sœurs confirment « Oui, l'évêque d'Agra est envoyé par Rome pour soutenir les insurgés vendéens !» Ah là, à ce moment-là, les chefs de l'armée catholique et royale changent complètement d'attitude. On se dit qu'on a affaire à quelqu'un d'important. En plus, imaginez la situation de ces gens qui se sont dressés, levés contre la Nouvelle République et qui ont besoin de soutien. Et là, d'un seul coup, ils sentent un grand réconfort dans la présence de cet évêque qui leur est envoyé par Rome, d'autant plus que l'ensemble des anciens évêques ont fui les diocèses et qui ne sont plus représentés par personne, ces gens-là. C'est également le premier signe d'un soutien officiel du Saint-Siège à la cause de cette insurrection vendéenne. Donc, voyez, quand je vous dis « chacun entend ce qu'il veut entendre », alors quand même, il y en a dans les rangs qui trouvent que Guillot est un peu surprenant. Il connaît les rites et la liturgie parfaitement bien. Le clergé ne trouve rien à dire sur sa conduite lors des nombreuses célébrations. Mais enfin, c'est quand même, il est un peu bizarre. Peu à peu, il n'en va pas moins acquérir une place considérable. Sa présence, je vous l'ai dit, apporte du réconfort aux dizaines de milliers de soldats qui composent cette armée. En quelques mois, l'évêque d'Agra devient littéralement un soutien au moral des troupes. Et il ne va pas s'arrêter là. Il intègre le conseil supérieur qui doit administrer les territoires qu'occupe l'armée vendéenne. Et non seulement il va l'intégrer, ce conseil, mais il va bientôt le présider. C'est normal, après tout. Il est le plus haut dignitaire de l'Église, et dans l'armée catholique et royale, évidemment, ça donne quelques droits. Ce conseil, qui forme le gouvernement maintenant provisoire de cette terre monarchiste, va prendre des décisions au nom du roi Louis XVII, le survivant, le fils de Louis XVI, bien sûr, qui est prisonnier encore à l'époque. Évidemment, Monseigneur d'Agra ignore le fond des dossiers. Il ne fait que signer les documents qu'on lui présente, il essaie de faire bonne impression, mais dans les cérémonies religieuses, il se rattrape, si je puis dire. Là, il joue un rôle très important, il va célébrer des mariages, il va ordonner des prêtres, il a toujours avec lui un valet qui porte une crosse de bois doré, après tout, il est l'évêque. Hein. Et dans tout ça, il y a des gens qui se méfient. Depuis le début, il y a un homme qui regarde ce Guillot d'un drôle d'œil, et c'est l'abbé Bernier, qui fait partie du conseil ecclésiastique, assistant le conseil supérieur que dirige donc l'évêque d'Agra depuis le début. Bernier observe cet homme qui prétend être envoyé par le pape, et il se dit que c'est quand même un peu étrange. Alors, il va envoyer lui-même une lettre, une missive au pape Pie VI. Et il attend la réponse, Bernier. Et la réponse, elle arrive le 31 juillet 1793. Et voilà ce que dit le souverain pontife, enfin, ce que dit la curie. Nous prenons soin de vous avertir que si quelqu'un a osé se servir du titre d'évêque d'Agra, ce titre n'est possédé par personne, que tous se détournent de lui et l'évitent comme un usurpateur dont les actes sont sacrilèges et infectés de la tache de nullité. Voilà. Maintenant, on a compris que les jours de l'évêque d'Agra au sein de l'armée catholique et royale sont comptés. Dominus Regnavit, un grand motet de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Le chœur et l'orchestre des arts florissants étaient évidemment sous la baguette de William Christie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors quand l'abbé Bernier découvre que l'évêque d'Agra est un imposteur, inutile de vous dire qu'il prévient l'état-major, et là on est complètement sous le choc. Tout le monde tombe des nues, mais comment est-ce qu'on a pu se tromper à ce point? Le problème, c'est que maintenant, cet imposteur a pris une place considérable. Il est très aimé des troupes. Si jamais on annonçait la vérité, si on le faisait publiquement chuter, ce serait probablement une catastrophe et ce serait très mauvais pour le moral des soldats. Jean-Marie Augustin écrit « Il n'est pas opportun dans ces conditions d'ébruiter le scandale. Mieux vaut l'étouffer et l'abbé Bernier, qui a provoqué la condamnation de Guillot par Rome, est le premier à conseiller un silence qui lui paraît imposé par la gravité de la situation. Cette affaire doit demeurer secrète. Personne ne doit être avisé de l'existence du bref pontifical en dehors du cercle très fermé des membres du conseil militaire. La décision qui est prise est de ne rien dire, pas même au principal intéressé, qu'on se contente de tenir à l'écart en le surveillant de près. Bah oui, évidemment, on va tout de même pas le traiter tout à fait comme auparavant, mais en tout cas, on essaie de maintenir les apparences. L'état-major vendéen, de toute façon, a, si vous me passez l'expression, d'autres chats à fouetter. Vous savez, au mois d'octobre, la guerre de Vendée a pris une toute autre tournure. Il y a cette espèce d'immense errance de ces troupes, des Vendéens qui sont allés à Granville, là-bas, dans le Cotentin, dans l'espoir de voir débarquer des renforts. Mais les renforts ne sont pas arrivés. C'est ce qu'on appelle la virée de Galerne, dont, bien sûr, l'évêque d'Agra fait partie. Sauf que maintenant, c'est au chef vendéen de jouer la comédie et de feindre la dévotion envers cet évêque auquel plus personne ne croit, parce qu'on sait que c'est un imposteur. En tout cas, on le sait parmi le petit nombre des chefs qui ont décidé de maintenir l'imposture. Dans la progression vers Granville, les troupes vendéennes vont passer par Dol de Bretagne. Et l'abbé Bernier, qui observe de près les agissements de son évêque, remarque chez lui un comportement assez étrange. Là, on a l'impression qu'à Dol de Bretagne, il n'est pas à l'aise, Guillot. Il demande qu'on entre dans la ville de nuit. Et une fois qu'il est dans la ville, visiblement, il frôle les murs, il garde la tête baissée, nous raconte Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission. De plus, nous dit-il, les habitants qu'il croise le reconnaissent et prennent un air ébahi. Et même à un moment, il y a un habitant de Dol qui arrive à sa rencontre et qui lui dit « Oh, monsieur le curé, vous voici !» Et là, l'évêque d'Agra prend la fuite. L'abbé Bernier le suit. Il arrive dans la cathédrale et il y découvre l'évêque en pleurs. Il est là dans une petite chapelle. Je crois que pour Guillot, le moment est venu de révéler sa véritable histoire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On va enfin savoir ce qu'il en est de cet évêque d'Agra. Le mystère va se dévoiler. Alors il raconte à l'abbé Bernier qu'il a été prêtre, effectivement, oui, dans la ville de Dol, qu'il avait été de ceux qu'on appelait les prêtres jureurs, donc il avait prêté serment à la constitution civile du clergé, et que ça, les habitants de Dol ne l'avaient pas accepté, alors il avait dû fuir la Bretagne pour aller s'installer à Paris, et c'est là-bas qu'il avait épousé les idées révolutionnaires, et puis, descendu à Poitiers, eh bien, il avait décidé de mener cette double vie qui finalement lui convenait bien, patriote le jour et ancien prêtre, enfin catholique fervent la nuit sous les traits d'un prétendu évêque. Là, on peut dire que l'abbé Bernier n'en croit pas à ses oreilles. Hein. Il déclare à Guillot ne pas vouloir ébruiter cette histoire. Après tout, la situation est trop délicate pour les Vendéens. Bernier demande à l'évêque de se faire discret, de simuler une maladie qui l'empêcherait de paraître. Et Guillot trouve que c'est la bonne solution. Seulement pour les Vendéens, les semaines suivantes ne sont, vous le savez, qu'une succession de malheurs. Cette armée catholique et royale va subir la déroute de la grande virée de Galerne, de nombreux Vendéens sont faits prisonniers, et parmi les prisonniers, notre évêque, si je puis dire, ou notre imposteur. Les républicains sont assez fiers de cette capture. Seulement voilà, le prisonnier commence à raconter à tout le monde qu'en fait il est bon républicain. Le 5 janvier 94, il proclame devant le jury qui doit décider de son sort, « Croyez-moi, il n'y a pas plus jacobin que moi et je peux le prouver !» Et il raconte son histoire. Non, il n'a jamais été royaliste, tout ça c'est une fable. La seule chance de survie qu'il avait il y a 7 mois, c'était de se déclarer catholique. Mais en fait, il défend, lui, la République. Et d'ailleurs, il peut livrer énormément de renseignements aux républicains sur l'organisation vendéenne. Pendant sa défense face au jury, il commence quand même à tourner un peu de l'œil, notre Guillot. Il a des hallucinations, il ne sait même plus tout à fait où il est ni qui il est. Il regarde le jury un peu hagard et il déclare « Mentir à ma conscience est un crime de plus. Je vais parler le langage de la vérité, je me dénonce moi-même. Je connais la loi, la mort m'attend, mais je la subirai avec courage. » Citoyen, je suis l'évêque d'Agra. » Alors là, c'était, j'ai envie de dire, c'était juste ce qu'il ne fallait pas dire. Les révolutionnaires décident de guillotiner celui qu'ils considèrent comme l'évêque de la Vendée. Seulement, lorsqu'on va placer Guillot sous le coup près de la guillotine, il n'est pas certain que lui-même ait su exactement qui il était. Alors, qui a été guillotiné ce jour-là, l'évêque ou le jacobin? Eh bien, je vous laisse choisir.
Vous écoutez Radio Classique. Imaginez un monde sans la maladie d'Alzheimer.
La Fondation Recherche Alzheimer est le premier financeur à soutenir les avancées sur cette maladie qui touche 1 million de personnes. Léguer à la Fondation Recherche Alzheimer, c'est préparer pour les générations futures un avenir sans Alzheimer grâce à une recherche d'excellence.
Legs, donation ou assurance vie, pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, appelez le 01 42 17 75 23. Rendez-vous sur alzheimer-recherche.org.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon?
Ah ben des lasagnes, c'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait, on passe par le marché d'abord et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur o2.fr.
En juin 2026, Mezzo vous emmène naviguer sur le Danube avec Rivage du Monde. Concerts intimistes, visites culturelles, échanges privilégiés. Vivez le charme des capitales impériales avec le Quatuor Zaïd et le journaliste musicien Antoine Pecker pour une croisière unique où la musique guide chaque instant. Réservez sur rivagedumonde.fr/mezzo.
Les jeunes voix lyriques s'apprêtent à résonner à la salle Cortot. L'École normale de musique de Paris présente son gala de la voix qui met en avant les chanteurs de demain. Une soirée placée sous le signe de l'opéra italien dans une acoustique idéale pour accueillir la nouvelle génération et décerner 2 prix prestigieux offerts grâce au généreux soutien de la Fondation Minou Amir Aslani. Rendez-vous au 2e gala de la voix le 26 janvier à 20h en réservant sur salcorto.com.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
...14h30, 18h, les heures légères, avec Élodie Fondacci, sur Radio Classique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Radio Classique si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 18h. Nous sommes donc partis pour 3h30 d'une émission dont vous connaissez, je crois, le concept désormais. Chaque jour, une éphéméride qui est le prétexte à un thème plus ou moins pointu, plus ou moins farfelu. Un thème que nous déclinons ensemble entre 17h et 18h. Nous sommes le 15 janvier. Eh bien, le 15 janvier 1622, il y a 403 ans exactement, naît dans le quartier des Halles, au 96 rue Saint-Honoré à Paris, Jean-Baptiste Poquelin. Au rez-de-chaussée de l'immeuble où vient au monde le futur Molière, se trouve la boutique de son père, tapissier du roi, charge prestigieuse qui, imagine Monsieur Poquelin, va revenir bien sûr à ce fils premier-né. Mais le jeune homme n'en fait qu'à sa tête. Alors que tout le destine à devenir un jeune homme cultivé de la cour, il se prend de passion pour le théâtre et à 21 ans seulement, il choisit son destin. Il sera comédien, mais pas seulement. Molière fut à la fois écrivain, metteur en scène, directeur de théâtre. En artiste complet, il fit aussi la part belle à la musique. Et bien justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Molière et la musique. C'est le thème de nos heures légères. La musique du film Molière, film de Laurent Tirard avec Romain Duris dans le rôle-titre. C'est Frédéric Talgorn qui a composé la bande originale que nous venons d'entendre et c'est lui d'ailleurs qui dirigeait le Philharmonia Orchestra. Alors, on ne sait pas exactement quelle était la culture musicale de Molière, mais il est très probable qu'il a découvert la musique dans sa propre famille. Parce que du côté de sa grand-mère paternelle, eh bien, il y avait plusieurs générations de musiciens. C'était une lignée de musiciens, les Masuels. L'oncle de Jean-Baptiste,
Michel Masuel, faisait même partie des 24 violons du roi, dont il sera nommé compositeur de musique en 1654. Je vous propose, en guise de clin d'œil, puisqu'il y a un ensemble qui s'appelle les violons du roi, justement, en référence à cet héritage, eh bien de les écouter, les violons du roi, dirigés par leur chef Bernard Labadie, dans une musique anachronique, bien sûr, par rapport à notre thème, celle de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Thank you.
Bernard Labadie et les violons du roi, pour évoquer justement ces violons du roi dont faisaient partie des membres de la famille de Molière. Truls Mörck était au violoncelle et nous écoutions le fameux final du concerto pour violoncelle et cordes en la majeur de Carl Philipp Emanuel Bach, le fils de Jean-Sébastien. Alors donc, les débuts de Molière en tant que comédien ne sont pas simples. Lorsque le jeune homme décide de se consacrer à la scène, eh bien, il fonde une troupe qui va prendre pour nom l'Illustre Théâtre. Quelques autres comédiens qui sont aussi débutants l'entourent. Et puis, les débuts à Paris sont difficiles. Les artistes vont partir tenter leur chance en province, tournée qui va durer une dizaine d'années. Ils intègrent bien sûr dans leur pièce, dans leur comédie, la musique, mais aussi la danse. Et je vous propose d'écouter la musique du film Histoire d'un acteur inconnu. Film qui a pour musique une BO d'Alfred Schnittke. La musique du film d'Alexander Sarchi, L'histoire d'un acteur inconnu, musique signée Alfred Schnittke. Nous écoutions l'orchestre symphonique de la radio de Berlin et Frank Strobel à la baguette. Alors, Molière ne va pas rester très longtemps un acteur inconnu. Il revient à Paris et il va accomplir un exploit. Il va faire rire le roi Soleil. Sa carrière va être lancée à ce moment-là. Louis XIV va le prendre sous sa protection, lui le confier le théâtre du Palais Royal. Voici Molière, directeur de théâtre, et c'est donc le directeur de théâtre de Mozart que nous écoutons.
«
L'ouverture du directeur de théâtre de Mozart, l'orchestre de l'Opéra National de Norvège, était dirigée par Rinaldo Alessandrini. Molière a donc fait rire Louis XIV avec son « Docteur amoureux », c'est le titre de la comédie qui a fait rire le roi Soleil. Et évidemment, cela va tout changer, puisque le roi offre un toit à la troupe qui s'installe de façon sédentaire dans une salle au Petit Bourbon. Et puis plus tard, il y aura donc un théâtre magnifique, le Palais Royal. Louis XIV y installa la troupe de Molière après qu'elle ait obtenu ses faveurs. Vous m'écrivez, cher Romaric, comment ne pas évoquer Molière sans parler de Lully ? Ce sont deux artistes intimement liés, alors à vos platines, choisissez donc un petit morceau pour nous évoquer le grand siècle. Eh bien, c'est Solange qui nous écrit, elle aussi, qui va choisir l'extrait. Solange, vous nous proposez un extrait du Bourgeois gentilhomme de Molière et Lully, donc.
Je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde.
Quelle ?
Vous savez que le fils du grand turc est ici.
Moi ?
Non. Comment ? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.
Moi, je ne savais pas cela.
Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.
Le fils du grand turc ?
Oui. Et il veut être votre gendre.
Mon gendre ? Le fils du grand turc.
Le fils du grand turc, votre gendre. Pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays.
Mamamouchi?
Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... paladin, enfin. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans tout le monde et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre.
Le fils du grand turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment ?
Reinhard Goebel et le Musica Antiqua Köln dans La cérémonie des Turcs tirée du Bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully et de Molière. Et nous n'avons pas pu résister. Nous avons glissé juste avant un extrait de l'hilarante scène du grand Mamamouchi, donc avec une version de 1958 donnée à la Comédie française avec entre autres Louis Seignier, Jean Meyer, Georges Descrières. Voilà pour rappeler bien sûr que Molière est immortel et continue à être joué encore et encore. Les deux Jean-Baptiste, comme les nommait affectueusement Madame de Sévigné, vont émerveiller la cour pendant une dizaine d'années avec des comédies, ballets qui sont au cœur de grandes fêtes royales qui durent et qui évidemment n'ont presque jamais de fin. C'est à Versailles un îlot de plaisir et ils vont finalement se brouiller. À la fin de leur vie, eh bien, c'est fini cette amitié qui a pourtant été sincère. Et dans sa dernière pièce, eh bien, Molière va faire appel à Marc-Antoine Charpentier pour Le Malade Imaginaire. Je vous propose d'écouter du Marc-Antoine Charpentier. C'est l'idylle en musique, dont voici l'ouverture. L'ouverture de l'idylle en musique, Les Arts Florissants, de Marc-Antoine Charpentier. C'est à cause de cette œuvre, bien sûr, que Les Arts Florissants que nous écoutions à l'instant s'appellent ainsi. Nous écoutions également leur chef, William Christie. Dans quelques instants, il sera 14h57. Nous allons donc marquer une pause et nous reprendrons notre thème Molière et la musique entre 17h et 18h.
Partout en France, la Fondation du patrimoine fédère les énergies pour sauver une chapelle, un moulin, un lavoir, une forêt, pour rouvrir un musée ou restaurer un théâtre. Ensemble, soutenons la Fondation du patrimoine. Donnons un avenir à notre histoire. Et tous les jours, sur Radio Classique, retrouvez des personnalités qui témoignent de leur attachement à leur lieu de cœur dans Au cœur du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. Vous aussi, partagez votre passion. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.
Territoires enneigés et enivrants se déploient à la scène musicale. L'archet de la violoniste Lia Petrova vous guide dans l'hypnotisant concerto pour violon de Mendelssohn avant de plonger dans le rêve d'hiver de la première symphonie de Tchaïkovski. Un voyage par l'Orchestre symphonique des Flandres, dirigé par Martin Dendievel, à retrouver ce 21 janvier à la scène musicale.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henrique et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters. Voyagez au cœur d'un monde où l'image et le texte se rencontrent et où chaque page est une célébration de la richesse du 9e art. Ce dictionnaire amoureux rend hommage aux dessinateurs et scénaristes à l'origine d'univers inoubliables, profondément ancrés dans notre imaginaire. Le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters aux éditions Plomb, en vente partout et sur radioclassique.fr.
Radio Classique présente Le Petit Pianiste de Morgan Raoux et Julie Hanen, raconté par Guillaume Gallienne.
La porte du cinquième s'ouvre à la volée. Une vieille dame, assise dans un fauteuil roulant, un plaid improbable sur les genoux, apparaît à contre-jour.
Découvrez une tendre histoire d'amitié entre un petit garçon et une vieille dame réunis par leur amour de la musique. Le Petit Pianiste, un livre jeunesse aux éditions Nathan, en vente partout, avec CD audio et QR code inclus.
Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 euros par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 fois 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Notre thème du jour dans les heures légères, c'est donc Molière et la musique. Si vous pensez à des œuvres qui illustrent la vie du dramaturge ou encore à des pièces de Molière adaptées par des compositeurs, eh bien faites vos propositions.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le docteur Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.